Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niyungeko.
Vous êtes bien sur la radio Inzamba Gateka Kawe. Bienvenue, mesdames, messieurs, chers auditrices, auditeurs de la radio Inzamba Gateka Kawe. C'est l'heure du journal en français, dont voici d'abord les grandes articulations. Le parti PD Zigamiwanga compte saisir les juridictions internationales sur l'assassinat de son président Zed Ferouz, mort, assassiné il y a de cela 7 ans. Ce parti constate que la justice burundaise a traîné les pieds pour mettre la lumière sur cet assassinat. Et puis les membres du parti CNL en commune Kiwago, province Makamba, se voient refuser de célébrer le 3e anniversaire de leur parti. Ils crient en injustice. Enfin, les militaires des 60e et 61e bataillons de la mission de maintien de la paix en Somalie sont mécontents. Ils réclament 10 mois d'arriéré de leurs indemnités. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bonjour, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Un conducteur de taxi qui travaillait au chef-lieu de la commune Buyengero est mort hier après avoir été égorgé par des personnes non encore identifiées. Eloi Tuyisenge avait été retrouvé à l'agonie le matin de ce dimanche dans la localité appelée Chogo en commune Mugamba, sur la frontière des communes Mugamba et Matana. Il a été conduit à l'hôpital de Matana où il a succombé à ses blessures quelque temps après. 7 ans après l'assassinat de l'ancien président du parti UPD Zigamiwanga, Zed Ferouz, un de ses gardes du corps, aucune lumière n'a été encore faite par les autorités burundaises sur cet assassinat. C'est le constat du président de ce parti qui ne doute pas qu'il s'agit d'un crime odieux commis par les agents de l'État. Chevino Mugwengezo demande une enquête indépendante sur cet assassinat et la traduction en justice des auteurs de ce crime, sinon ce parti se prépare déjà à porter cette affaire devant d'autres juridictions internationales. Suivez.
C'est une question que nous avons entamée dès le lendemain de l'assassinat de Zed Ferouz, président de l'UPD Zigamiwanga. Depuis lors, ce dossier n'a pas eu de suivi. Ce dossier a été presque classé dans les oubliettes parce qu'effectivement, et tous les indicateurs montraient que l'État burundais, le pouvoir CNDD-FDD de Nkurunziza est derrière cet assassinat, est responsable de cet assassinat. Parce que parmi les indicateurs, il y a notamment que Zedi a été assassiné au lendemain de la réunification du parti UPD Zigamiwanga. Et quand nous nous sommes réunifiés, le pouvoir CNDD-FDD n'a pas vu ça d'un bon œil. Et Zedi lui-même me disait, vraiment, je suis d'accord que nous puissions nous réunifier, et je crains que, de la part du pouvoir, il puisse y avoir une violence contre moi. Il me l'a dit, moi. Deuxième indice, c'est la participation de Zedi Ferouz dans les manifestations. Tout le monde se souviendra du discours, du propos de Zedi Ferouz à Moussada, où il disait, nous devons tout mettre en œuvre pour nous assurer que nous déboulonnons ce système qui fait des ravages à travers tout le pays, et c'est maintenant ou jamais. Ce sont autant d'indices qui nous poussent à croire, sans risque de nous tromper, que l'assassinat de Zed Ferouz est l'œuvre du pouvoir CNDD-FDD, alors incarné par Nkurunziza. Alors, bien que ce dossier ait été classé sans suite, nous n'entendons pas nous en arrêter là. Nous allons continuer à poursuivre cette affaire-là, à revendiquer que la justice burundaise travaille sur ce dossier-là, jusqu'à ce que les coupables soit démasqué. Ce dossier est un dossier fondamentalement politique. Tout porte à croire que ce n'est pas demain la veille que le CNDD-FDD ou le pouvoir va s'activer pour investiguer là-dessus. Mais nous nous sommes engagés, outre la démarche que nous faisons à l'endroit de Burundi, nous sommes en train de préparer un dossier pour que nous puissions, en tant que famille politique de Zedi, porter plainte en bonne et due forme auprès des institutions internationales des droits de l'homme.
Chovino Mugwengezo. Les activités de la célébration du 3e anniversaire du parti CNL en commune Kiwago, en province de Makamba, nous sommes au sud du pays, ont été suspendues ce dimanche fin 2 mai par une décision de l'administrateur de cette commune, Antoine Ndagijimana. Ce dernier a expliqué qu'il y avait dans les festivités des membres de son parti qui n'étaient pas natifs de la commune de Kiwago. Les détails avec Khaour Nguengurutse.
Selon les responsables du parti CNR, les festivités du 3e anniversaire de ce parti ont été suspendues par Antoine Ndaïla Guigé, administrateur de la commune Kayogoro. Plusieurs policiers dirigés par le commissaire communal de Kayogoro et le secrétaire permanent de la commune ont assailli la place qui devrait abriter les participants. Le comité d'organisation a été informé que les activités doivent être suspendues. Le motif de cette suspension, c'est la présence des militants du CNL venus d'autres communes environnantes, ce que les responsables du CNL considèrent comme un prétexte, car c'était quelques invités constitués de représentants et des tambourinaires. Ces militants disent qu'ils ont été surpris d'entendre Antoine Ndaïla Guigé, administrateur de la commune Kayogoro, dire que même les responsables du CNL ne devraient pas participer à ces cérémonies. Les responsables du CNL déplorent un tel comportement qui sabote toujours les activités de leur parti. Les mêmes sabotages ont été tentés le 8 mai en commune Nyanzarak lors de la visite de l'honorable Agathon Gwasa, président du parti CNL au niveau national. Des Imbonerakure ont déterré des bananiers ornant le long de la route. D'autres avaient installé des haut-parleurs près du stade Nyanzarak avec un objectif de désorganiser les activités de ce parti. Toutefois, la situation a été bien gérée par le commissaire provincial de la police Emmanuel Manalio et son subalterne de la commune Nyanzarak en empêchant ces Imbonerakure qui voulaient saboter ces activités.
Merci Raoul. Grogne chez les militaires des 60e et 61e bataillons ATMIS en fin de mission de maintien de la paix en Somalie. Ils réclament 10 mois des arriérés de leurs indemnités. Ils disent ne pas savoir les raisons de ce retard de paiement, d'autant plus que les militaires des autres pays contributeurs de troupes n'ont pas ce problème. Plus de détails avec Eddie Claude Nininahatsu.
Le premier atterrissage des militaires du 60e et 61e bataillon ATMIS a eu lieu samedi dernier dans l'après-midi à l'aéroport international de Bujumbura. Cette activité de relève prend fin au 9 juin prochain, comme nous pouvons le constater dans les prévisions de rotation ATMIS pour le contingent burundais. Les militaires ont relevé s'évalue à plus de 1600 hommes. Ils rentrent au pays la mort à l'âme parce qu'ils accusent 10 mois d'arriérés des indemnités ATMIS. ATMIS est à la nouvelle appellation des forces de transition de l'Union africaine qui a remplacé l'AMISOM depuis le 1er avril 2022. Les militaires burundais exigent au commandement des explications pour clarifier des motifs de ce retard de leurs indemnités, du moment que les militaires des autres pays contributeurs de troupes reçoivent toujours leurs indemnités à temps.
Ça dépasse l'entendement. Passer une année loin de sa famille pour chercher du pain et rentrer en main bredouille. 10 mois d'arriéré, c'est vraiment grave. Quand nous demandons aux ressortissants kényans du contingent ATMIS et les Ougandais, ils reçoivent leurs indemnités régulièrement. Pourquoi ce problème est uniquement pour le Burundi? Nous demandons à l'Union africaine de clarifier cette situation. Ceux qui ont une voix qui porte loin, allez demander cette question à l'Union africaine et à l'ATMIS.
Les responsables de ces bataillons qui sont en train d'être relevés leur ont expliqué qu'ils pourront se rendre dans les coopératives d'épargne de crédit pour l'autodéveloppement des militaires CKDM pour avoir un emprunt remboursable avec intérêt pour avoir le ticket d'aller rendre visite à leurs familles respectives. Ces militaires comparent cet emprunt aux autres emprunts informels. Selon les militaires, cette coopérative CKDM continue à faire des retenues à la source avec des pénalités de retard de paiement, alors que les militaires contractants ne sont en aucun cas responsables de ce retard de paiement de leurs indemnités ATMIS. Outre le 60e et 61e bataillon ATMIS qui réclame 10 mois d'arriéré, les 50e, 58e et 59e bataillons réclament aussi 5 mois d'arriéré. Ils ont été relevés au mois de novembre de l'année passée. Les 62e, 63e et 64e bataillons ATMIS réclament eux aussi 7 mois d'arriéré. Et depuis leur arrivée en Somalie au mois de novembre de l'année passée, ils n'ont jamais reçu aucun sou sur leurs comptes respectifs. À la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, nous n'avons pas encore la version du colonel Floribert Wiyereke, porte-parole de l'armée burundaise, pour éclairer l'opinion sur ces grognes des militaires burundais des forces de l'ATMIS liées au retard des indemnités.
Merci Eddy Claude. Autre grogne, autre inquiétude chez les habitants des quartiers Kilema et Moussaavé, dont les maisons sont situées dans le périmètre de la ville de Kayanza. Cette inquiétude est due à la décision de l'administration communale, selon laquelle celui qui ne paye pas les impôts fonciers n'aura pas accès aux services communaux. Les concernés trouvent que la mesure est injuste, du moment qu'ils n'ont jamais été informés à propos de la loi relative. Ils demandent à l'autorité communale de donner de plus amples explications sur cette mesure. Le point avec Vanessa Mouhitek.
Dans un communiqué qui a été lu ce dimanche aussi bien dans les églises que dans les mosquées, l'administrateur de la commune Kayanza, Gilbert Nyandri, explique que tous les habitants de la ville de Kayanza qui disposent des maisons et qui n'ont pas encore payé l'impôt foncier, qui ne bénéficieront aucun service de la commune Kayanza. Certains habitants de cette commune qui se sont entretenus avec la radio Inzamba s'inquiètent et disent qu'ils n'ont jamais été informés à propos de la loi irrelative. Tout comme non plus, la dite loi n'a jamais été rendue publique.
Nous avons l'habitude que la commune demande des taxes au lieu de l'impôt. En plus, la plupart d'entre nous ont hérité ces terrains de nos parents et l'autre catégorie de gens est celui de ceux qui ont acheté des parcelles et ont construit des maisons pour y habiter. Nous ne comprenons pas la raison de nous demander l'impôt foncier alors que nous vivons dans des coins les plus reculés de la ville sans aucune route construite par l'État. Ceux qui n'auront pas payé, ils ne bénéficieront d'aucun service dispensé par la commune, que ce soit pour faire enregistrer un nouveau-né ou une chose. On doit d'abord payer l'impôt.
Il demande à l'autorité communale de Kayanza d'expliquer la mesure aux habitants des deux quartiers concernés avant sa mise en application.
Nous demandons à l'État de nous sensibiliser d'abord avant la mise en application de cette décision et nous expliquer les raisons de payer cet impôt foncier. Et plusieurs raisons nous poussent à ne pas comprendre cette décision. Nous avons besoin d'être éclairés.
La commune a commencé à exiger cet impôt à la population en 2018 et que tout retard est pénalisé par 50% auquel s'ajoutent également des intérêts. Suite à toutes ces grognes de la population, la radio Inzamba n'a pas encore eu la version des administratifs dans la commune de Kayanza.
Inzamba. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a terminé son lundi sa visite officielle de 3 jours au Burundi avant de s'envoler pour Kinshasa. Le président congolais a réitéré sa volonté de renforcer les relations entre son pays et le Burundi. Et son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye, a salué les efforts du président Tshisekedi dans la sauvegarde de la paix dans la région. Le Parlement devrait adopter un budget d'austérité dans les secteurs porteurs de croissance économique et non sur les dépenses de fonctionnement. La priorité devrait être donnée aux activités de développement de la population. C'est ce qu'a indiqué Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. C'était dans une conférence de presse animée ce matin. Il le dit après que le Conseil des ministres ait adopté mercredi dernier le budget de l'État exercice 2022-2023. On l'écoute.
Comme vous le voyez, il y a un problème très sérieux actuellement en rapport avec la cherté de la vie. Ça saute aux yeux, il suffit seulement d'aller prendre un bus, d'aller chercher du carburant, d'aller acheter des produits essentiels, mais aussi des produits vivriers. La vie, en tout cas, est devenue un peu compliquée. L'Olicom a essayé de donner des contributions pour qu'on puisse avoir réellement un budget qui va répondre à tous ces défis que je viens de citer. Donc, nous voulons qu'il y ait un budget qui répond réellement aux problèmes que fait face les citoyens burundais. Le Conseil des ministres a déjà adopté le projet de budget, c'était le 18 mai 2022, c'est-à-dire le mercredi passé. Comme on le dit en français, vaut mieux prévenir que guérir. On était habitué au budget de fonctionnement, mais avec le budget programme, il faut vraiment qu'on puisse avoir un budget orienté vers le secteur de porteur de croissance. Il faut vraiment que ces dépenses de fonctionnement soient des dépenses essentielles. Il faut qu'il y ait un budget d'austérité budgétaire. C'est une recommandation importante de constituer ces trois, donc les engins et Zenta Agricole et Rostock Carburant. Nous voulons que le gouvernement met un accent particulier sur les devises. J'ai oublié aussi de vous dire qu'il faut la constitution des réserves, c'est-à-dire un stock des réserves de devises. Un pays comme le Burundi ne doit pas vivre du jour au jour. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un stock des devises. Je veux vraiment m'éterniser un peu sur ce point. Les devises, vous savez, proviennent des cultures industrielles. Ces cultures industrielles sont notamment le café, le coton, le thé, mais aussi proviennent des minéraux.
14 réfugiés burundais qui ont subi des tortures pendant la crise de 2015 vont bénéficier des formations pour l'autodéveloppement de la part du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. 4 parmi ces 14 réfugiés auront un capital pour commencer le petit commerce. L'annonce a été faite par Jeanne d'Arc Zaniniana, présidente de ce mouvement. Elle précise que cette activité s'inscrit dans l'objectif du mouvement depuis le début de cette année. On l'écoute.
On va commencer dès maintenant par des coachings en entrepreneuriat, mais aussi on va essayer d'accompagner ces bénéficiaires pour arriver à faire en sorte que leur projet puisse aboutir. On va aussi organiser de petites formations pour le compte des juristes et des psychologues, parce que comme vous le savez, beaucoup d'entre eux ont eu des traumas qui font qu'aujourd'hui ils ne vivent pas épanouis. Et aussi il y a ce sentiment de recherche de la justice qui est toujours là. Durant ce projet, il y aura des juristes, il y aura aussi des psychologues qui vont les accompagner et on espère qu'au bout de ce projet, les 14 bénéficiaires pourront sortir enrichis, tant moralement, physiquement, mais aussi psychologiquement. Autre chose à signaler, c'est que ce projet entre dans notre mission de tous les jours qui est celle de vrai pour la paix et la sécurité au Burundi, en ce sens que nous sommes convaincus que nous sommes appelés à embarquer tous les Burundais, tous les enfants du Burundi dans cette noble mission. Et cela ne saura se faire si on laisse derrière ceux qui ont été victimes des atrocités qui ont été commises au Burundi. On est convaincus que sans toutes ces victimes de nos crises, on ne peut pas arriver à une paix, à une sécurité qui est durable au Burundi. C'est donc dans ce sens que le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité du Burundi a songé à mettre aussi en avant cette préoccupation par rapport aux victimes de la crise. Et on espère que ce sera une bonne opportunité pour eux, mais aussi pour notre mouvement et pour les Burundais en général, de pouvoir réaliser que, certes, on est en train de pour la paix et la sécurité au Burundi, mais on ne peut pas le faire en laissant derrière toutes ces personnes qui sont quelque part victimes des atrocités qui se font au Burundi.
Au moins 145 litres de boissons prohibées constituées de la boisson dite Umuraha et Kanyanga ont été saisis ce dimanche par la police sur la colline zone Rugari de la commune Muyinga, dans cette même province de Muyinga, au nord du pays. 3 chefs de ménage sur 4 présumés ont été interpellés par la police pour des réseaux d'enquête. Le gros de ces boissons prohibées commercialisées en zone Rugari viendrait de la Tanzanie. Certains administratifs locaux travailleraient de mèche avec les trafiquants, comme l'a confié notre source à Muyinga. Un mot de sport pour boucler ce journal. Les équipes Flambeau du Centre et Bumamuru sont qualifiées pour la finale de la Coupe du Président prévue le 11 juin. Au basketball, le championnat du Burundi a clôturé sa 3e journée ce dimanche. Jimmy Kana est en tête du classement. Les détails avec Benny Axelakan.
Dans ce championnat Viva Basketball League, pendant la 3e journée, New Star a battu Young Eagles par 95-71. Les Hippos ont battu Aigle Noir sur un score de 82-63. Ulunani a donné une leçon de basketball à Brothers. Score final 117-53. Les Meshas a battu difficilement Dynamo sur un score de 65-61 et Jim Khan a battu Brothers par 93-67. Après cette victoire, Jim Khan a pris la première place et ne compte pas la lâcher. Dans son club, ils indiquent que l'objectif est de gagner le championnat. C'est un objectif que son club partage avec d'autres, ce qui annonce un championnat palpitant. Au basketball toujours, dans le but de préparer l'équipe nationale, la fédération a publié les noms de ceux qui vont diriger l'équipe nationale. L'entraîneur principal est Olivier Ndahiragije, qui sera assisté par Richard Patrick Ngujuluvugo. Le directeur technique national est Aaron Kagabo. Au football, les affiches de la finale de la Coupe du Président sont connues depuis ce dimanche. Il s'agit de Flambeau du Centre, champion du Burundi, et Bumamuru. Bumamuru a éliminé en demi-finale Buja City par 3-0 au match retour. Et au match aller, c'est également cette équipe de Chivitoki qui avait gagné sur un score d'un 1-0. Flambeau du Centre a quant à elle sorti Aigle Noir. Au match aller, Flambeau s'était imposé à Makamba par 2-1. Au match retour, les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 2-2. Jusqu'à la 90e minute, Aigle Noir menait par 2-0 et était qualifié pour la finale. Mais le match a basculé pendant le temps additionnel quand Flambeau du Centre a marqué à 2 reprises en 2 minutes, éliminant du coup Aigle Noir. La finale aura lieu le 11 juin au stade de Buganda en province de Chivitoke. Un moindre mal car, quel que soit le résultat, Bumamuru représentera le Burundi à la Coupe de la Confédération. En effet, le règlement de la Fédération de football du Burundi stipule que si le champion du Burundi gagne également la Coupe du Président, c'est l'équipe qui a perdu en finale de cette compétition qui représente le Burundi à la Coupe de la Confédération.
Merci Benny Axelakana. Et c'est sur cet élément de sport que nous mettons fin à ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée suivant la position de votre écoute. Au revoir et à la prochaine.